Deux personnes sont donc décédées aujourd'hui. Elles ont été victimes de la tempête Ami. On le disait, il s'agit d'un homme de 48 ans en Seine-Maritime, un autre de 25 ans dans l'Aisne. Cette tempête venue des îles Britanniques a provoqué de très fortes rafales dans plusieurs communes du nord-ouest de la France. Retour sur les faits avec Anaïs Girard, Agathe Pichon et Raphaël Luce.
Cette maison est comme transpercée. La toiture n'a pas résisté au vent violent, plus de la moitié a été arrachée. Au moment de la tempête, une femme de 93 ans et son auxiliaire de vie se trouvaient à l'intérieur. Le maire de la commune est toujours sous le choc, il est le petit-fils de la victime.
Ma grand-mère, elle dormait juste ici, là, la fenêtre du milieu. Donc rien n'est tombé sur le lit, donc elle s'en est sortie qu'avec beaucoup de poussière sur elle. Physiquement ça va, mais psychologiquement il va falloir la soutenir.
Sa grand-mère a pu finalement être relogée chez ses voisins. La zone a été sécurisée tout autour de sa maison, car la deuxième partie du toit, elle aussi, risque de glisser sur la route.
Donc la toiture était encore à peu près au niveau du mur, et là on voit, elle a déjà avancé de plus d'un mètre, quoi, en quelques heures, quoi.
Amy est la première tempête automnale à frapper l'Hexagone. Et elle fait des vagues également au Tréport, où certains prennent des photos de la Manche déchaînée. La Seine-Maritime était placée en vigilance orange toute la journée, avec des rafales jusqu'à 130 km/h.
On se sent tout petit sur Terre, vu quand on voit les vagues, etc. On a du mal à tenir debout, c'est vrai que c'est impressionnant.
Autant de vent, c'est une première, honnêtement. J'étais pas habitué. Pourtant, j'ai fait Dublin il n'y a pas si longtemps, ça soufflait pas mal. Et là, d'un coup, des rafales comme ça, ça déstabilise vraiment. Ouais, c'est une première.
Les bourrasques ont d'abord balayé les îles britanniques, rendant là aussi la mer impraticable. En Irlande, au moins une personne est décédée.
Et on le rappelle, le bilan s'est alourdi. Deux personnes ont trouvé la mort après le passage de cette tempête. On le rappelle, un homme de 48 ans décédé ce matin alors qu'il se baignait à Étretat. En Normandie, il était accompagné d'un jeune homme de 18 ans qui a pu rejoindre la rive et un autre est décédé dans l'Aisne. C'est une grande branche d'arbre qui est tombée sur son véhicule et qui a provoqué son décès. Pour en parler, on est avec Gaëlle Musquet. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des risques naturels. Il s'agit là de la toute première tempête de la saison.
Oui, tout à fait. Ce sont deux phénomènes qui ont fusionné dans l'Atlantique, Umberto et Imelda, qui après avoir provoqué des millions de dollars de dégâts dans la zone Caraïbe, ont fusionné sous l'effet Fujimara, qui est en fait un effet qui, où ces deux phénomènes en fusionnant tourbillonnent et en traversant l'Atlantique est devenue Amy, cette tempête qui a été la plus violente du côté plutôt de l'Écosse et du nord de l'Europe. Nous, on a eu affaire qu'au sud, hein, la bande sud de ce phénomène.
On a plutôt été épargné par rapport aux autres.
Tout à fait. Là, on a eu quand même des rafales dans cette maritime qui ont atteint les 131 km/h. Donc, c'est quand même un phénomène majeur. Mais on est loin des 180 km/h qui ont pu toucher les îles du côté de l'Écosse et toucher aussi l'Écosse. Où là, on a effectivement des éléments qui se sont fortement déchaînés avec pas mal de dégâts aussi au nord d'Angleterre.
Donc, on pouvait s'attendre à une telle violence, notamment dans le nord du pays?
On a une vigilance orange qui s'est arrêtée à 19h. Donc, effectivement, Météo France avait anticipé ce phénomène, à la fois sur le vent, un peu de précipitation, mais aussi des vagues submersion, d'où malheureusement ce décès que l'on a déploré. On est encore en vigilance jaune, submersion, sur le nord de la France jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc là, à la faveur de la nuit, on se doute bien qu'il y a personne en mer en ce moment. Mais il faut encore rester vigilant. Les arbres sont encore chargés en feuilles. On est encore tout début de l'automne. Et donc, c'est très important, en fait, de rester encore vigilant aujourd'hui, demain matin, sur ces branches, ces arbres qui peuvent encore tomber suite au vent qu'on a eu aujourd'hui.
Oui, on le rappelle, donc un homme de 48 ans est décédé ce matin alors qu'il se baignait à Étretat en Normandie. On est justement en ligne avec le commandant Rodolphe Hoguel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes pompier de la Seine-Maritime. On sait que cet homme de 48 ans était accompagné d'un jeune homme de 18 ans qui, lui, a pu rejoindre la rive. Racontez-nous ce qu'il s'est passé sur place. On a compris qu'il y avait eu plusieurs tentatives de sauvetage.
Oui, bonsoir. Effectivement, les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime sont intervenus à 9h15 ce matin au large d'Étretat pour deux baigneurs âgé de 18 et 48 ans, qui s'était mis à l'eau depuis la plage. Donc la première victime a réussi à rejoindre le bord, malheureusement pas la deuxième. Cette intervention s'est déroulée dans des conditions météo difficiles, puisque l'hélicoptère Dragon 76 n'a pas pu élitreiller la victime, la deuxième victime, et les sauveteurs aquatiques sapeurs-pompiers ainsi que la Société nationale de sauvetage en mer n'ont pas pu mettre leurs embarcations à l'eau. Voilà, donc ça a été une intervention difficile, avec beaucoup d'engagement. Et je tiens à signaler l'engagement de l'ensemble des secours sur cette intervention. Le corps de la victime a été récupéré à marée basse vers 16h, voilà, et a été laissé à disposition de la gendarmerie.
Oui, commandant, expliquez-nous précisément quel est le matériel qui a été déployé pour tenter de sauver cet homme. Il y avait un hélicoptère, donc ?
Effectivement, un hélicoptère de la sécurité civile, hein, Dragon 76. C'est sur les moyens aériens. Il y avait également des moyens de ce qu'on appelle la SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer, en lien avec le Cross Greenay, qui chargé de la surveillance des côtes. Et puis également des embarcations sapeurs-pompiers avec des sauveteurs aquatiques. Voilà l'ensemble des moyens terrestres, maritimes et puis aériens qui ont été mobilisés sur cette intervention.
Et alors, comment s'est passée la journée pour vos équipes ? Est-ce qu'il y a eu d'autres interventions ?
Oui, effectivement, sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime, on compte pas moins de 75 interventions liées à l'épisode météo. Voilà, peu de victimes à signaler, pour autant beaucoup de dégâts matériels liés à des chutes d'arbres. Et des chutes de matériaux sur la voie publique.
Oui. Gaël Musquet, ce sont des accidents qui arrivent couramment. C'est vrai que les morts par noyade, c'est un risque encouru au moment d'une tempête.
Sur ces phénomènes que l'on a anticipés, en plus. Donc, on a effectivement, malheureusement, des personnes qui font preuve d'imprudence. C'est toujours opportun de rappeler les règles, hein, quand on est en vigilance orange. Même en vigilance jaune, ça reste des vigilances, ce sont des alertes, ce sont des services de l'État qui se mobilisent pour sauver des vies et éviter que l'on se mette dans des situations d'imprudence et que les collectivités aussi puissent s'organiser. Faire preuve d'imprudence, c'est mettre en danger ces pompiers qui s'engagent, c'est mettre en danger les appareils aussi qui s'engagent. Ces hélicoptères sont précieux, ils sont rares, ils sont pas engagés uniquement sur ces théâtres-là. On a besoin de ces machines, on a besoin de ces bateaux. On a besoin de ces hommes et ces femmes qui s'engagent sur d'autres fronts. Et donc, faire preuve d'imprudence, c'est se mettre en danger soi-même, mais aussi mettre en danger ces hommes et ces femmes qui auraient été peut-être plus à l'aise, ou en tout cas plus à leur place dans leur caserne, ou auprès de leurs proches. Donc, très important de respecter ces vigilances pour sauver vos vies, évidemment, et sauver, évidemment, éviter que ces hommes et ces femmes se mettent...
Est-ce que ça peut rapidement évoluer, je veux dire, au moment où on va se baigner, peut-être que, justement, on a le sentiment que c'est encore possible, mais est-ce que tout s'accélère
alors,
assez vite ?
Non, les vigilances, elles sont quand même données bien en amont. Donc, on a vraiment le temps de s'organiser. Et on a, sur ces vigilances oranges, dès hier, on a eu des messages d'alerte. Donc, c'est très important... aujourd'hui, de tenir vraiment compte. Alors, on a progressé, hein. Il n'y a pas que des effets négatifs sur ces vigilances. On a de plus en plus de personnes, d'élus, de collectivités qui s'adaptent et qui mettent en place des dispositifs. Mais c'est très important de continuer à être vigilant et prêter attention à ces messages d'alerte.
Oui, commandant Rodolphe Hogal, on parle parfois de l'imprudence des baigneurs. Comment peut-on faire pour convaincre les gens de ne pas se baigner dans ces conditions ?
Eh bien, écoutez, là, il s'agit d'une prise de conscience citoyenne. Pour autant, un certain nombre de communes littorales, notamment, ont des arrêtés mis en œuvre, pour effectivement interdire la baignade dans ces saisons et notamment sur les zones non surveillées.
Merci beaucoup, Gaël Musquet. Je voulais vous poser une question sur la spécificité de cette tempête. Est-ce que c'est une tempête classique d'automne, finalement, que l'on a vécu aujourd'hui en France ?
Oui, bien sûr. On a ces phénomènes traditionnellement en automne. Ce sont des phénomènes qui nous permettent à la fois... c'est des cycles naturels, hein, dont on a besoin pour défolier aussi ces arbres. En fait, ces vents, ces tempêtes ramènent des températures aussi qui permettent à la nature de se préserver, de s'endormir hein, tranquillement vers l'hiver. On a besoin de ce froid, on a besoin de ces phénomènes météorologiques pour arroser aussi les sols. Donc ces alternances de beau temps, de pluie, de vent sont importants, ils sont classiques, mais on doit faire attention évidemment avec ces alertes. Ce sont des nouveaux dispositifs qui sont disponibles. Ces prévisions météorologiques sont là pour sauver des vies, elles sont là aussi pour préserver les biens et les différents services publics. Et donc, tout au long de l'hiver, tout au long de l'automne, il va falloir prêter attention et faire attention à ces vigilances qui vont être répétées sur des inondations, sur des vents, sur des glissements de terrain parfois qui peuvent se produire. Chaque action, chaque prudence que l'on va avoir sur le terrain va être importante pour éviter de mobiliser inutilement les services publics.
On est aussi en ligne avec le lieutenant-colonel Ludovic Pingano. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant, gestion de crise BFM TV, fondateur du cabinet Astrix. Quand une tempête comme celle-ci arrive, comment est-ce que les collectivités s'organisent concrètement ?
Alors, il y a à plusieurs niveaux, il y a une organisation qui se met en place. D'abord, au niveau des services départementaux d'incendie et de secours, pour mobiliser, pour prépositionner un certain nombre de moyens de secours qui, du coup, sont en capacité d'intervenir beaucoup plus rapidement qu'en situation normale, parce que la situation que nous rencontrons est définie comme potentiellement dangereuse, et c'est ce que vient d'expliquer de façon très claire Gaël Musquet sur votre plateau. Ensuite, il y a également les maires des communes qui s'organisent pour mobiliser leurs plans communaux de sauvegarde, on appelle ça des PCS, et à l'échelle intercommunale, des plans intercommunaux de sauvegarde, de façon à ce que, à partir du moment où il puisse y avoir une dégradation de la situation, des victimes ou des impacts extrêmement forts sur les biens, que tous ces moyens puissent se coordonner sous l'autorité du préfet du département pour pouvoir intervenir de la façon la plus efficace qui soit. Mais la première des mesures à prendre, ça a été très justement expliqué sur votre plateau, c'est que cette vigilance météo, elle a pour objectif d'expliquer à tout le monde que la situation est dangereuse et que parce qu'elle est dangereuse, il faut rester chez soi, il faut se mettre à l'abri et surtout pas avoir d'activité qui pourrait nous mettre en danger.
Est-ce qu'il faut mieux préparer les communes rurales ? On sait qu'elles font souvent avec très peu de moyens et qu'elles sont parfois isolées.
Oui, alors, écoutez, moi je travaille au quotidien avec beaucoup de communes, des communes rurales, des communes urbaines, et aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience de la part des maires des communes de cette situation. Et d'ailleurs, la loi les oblige aujourd'hui à se préparer à faire face à ces situations. La vraie difficulté, c'est que tous, autant qu'on est, que ce soit un maire, que ce soit un citoyen, que ce soit un chef d'entreprise, on a toujours l'impression que cette vigilance météo, qui, je le rappelle, nous rappelle que la situation est dangereuse, on a toujours l'impression que finalement, ça ne va pas nous arriver, que ça arrivera aux autres. Et là, il y a une vraie question à se poser, je crois, de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus nationale. C'est, est-ce que cette vigilance météo, aujourd'hui, elle fonctionne bien ? On comprend bien vigilance jaune, orange, rouge, on l'entend. Mais est-ce qu'on est en capacité de mettre en œuvre les vraies mesures qui nous permettent de nous protéger ? Aujourd'hui, de façon très claire, j'en doute. Peut-être qu'il faudra repenser ce dispositif.
Justement, on sait que 6 départements du nord de l'Hexagone étaient placés en vigilance orange, vent violent, Gaël. On sait aussi que cette vigilance a été levée. Finalement, c'est une vigilance jaune dans le nord du pays. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de risque ?
Le risque est plus faible, mais on reste en vigilance. Donc, on a effectivement pratiquement des Côtes d'Armor jusqu'au Bas-Rhin, encore des départements qui sont en vigilance jaune. On a encore des vigilances submersion, donc des vigilances jaunes pour le vent encore jusqu'à minuit et des vigilances submersion jusqu'au dans le début de la matinée, donc 1h, 2h du matin aujourd'hui, on a ces vigilances et submersion parce que la mer reste dangereuse. Donc même si cette vigilance orange n'est plus de mise parce que les vents ont effectivement baissé d'intensité, on a un phénomène dangereux, on a encore du vent quand même soutenu et surtout, n'oubliez pas qu'on a des arbres encore une fois, qui ont des feuilles, et donc ces arbres ont été potentiellement fragilisés. On a eu des chutes de branches, y compris à Paris. Et donc, il faudra rester vigilant, même ce soir, si vous vous baladez, si vous marchez, si vous roulez, si vous circulez sur la route, adaptez votre conduite, parce qu'on a encore, cette nuit, jusqu'à demain matin, ces risques de chutes d'objets, ces chutes d'arbres, qui peuvent éventuellement, malheureusement, blesser et encore tuer. On l'a vu encore, malheureusement, aujourd'hui.
On entendait le lieutenant-colonel Ludovic Pingano qui nous disait que finalement, les Français ne savent pas toujours suivre les consignes. Ce qui signifie que doit-on faire quand on est en vigilance jaune ? Ça veut dire qu'on doit rester chez soi ou qu'on peut quand même sortir concrètement ?
Alors, quand on n'a pas d'obligation ou d'impératif, effectivement, l'idéal, c'est de rester chez soi, de rester aussi à l'écoute de ces différents bulletins météo et de consulter les sites de différents médias et évidemment de Météo France. On a un certain nombre de documents qui existent. Vous pouvez aller sur georisque.gouv.fr, qui est le site gouvernemental qui y explique et qui donne les consignes en fonction de votre adresse, en fonction de votre commune, des consignes à respecter en fonction des différents types d'aléas, puisque évidemment, chaque aléa, une inondation ne va pas demander les mêmes prudences qu'une tempête ou que des submersions. Et donc, n'hésitez pas à aller sur ce site, c'est un service public qui fonctionne très bien, georisque.gouv.fr. Vous avez aussi les DICRIM, les documents d'information communaux des risques majeurs qui sont distribués par vos communes. Évidemment, les sites web de vos différentes communes qui vous donnent encore plus d'informations pour savoir comment vous comporter au moment où l'aléa survient.
Et alors, Gaëlle, est-ce qu'on peut dire que les tempêtes sont plus fréquentes ou est-ce qu'elles sont mises plus en avant dans les médias ?
Alors, on a effectivement une couverture médiatique plus importante de ces phénomènes. Ils sont pas forcément plus fréquents. En revanche, ils sont beaucoup plus violents. On a effectivement une intensité à la fois sur les vents, l'intensité des vents de ces tempêtes liées au dérèglement climatique. On a aussi une intensité aussi de la quantité de pluie qui va tomber. Ces deux phénomènes-là combinés augmentent malheureusement la dangerosité et parfois aussi les bilans de ces différents événements. On a eu très peur pour l'Espagne cette semaine. On a eu sur l'actualité récente en Allemagne, en Espagne, des centaines de morts suite à ce type d'événements pluvieux orageux. Et donc effectivement, il faut rester vigilant, rester aussi vigilant aux manières dont on va s'adapter face à ces différents aléas, comment les collectivités, comment les services publics, comment les services météorologiques vont être aussi de plus en plus efficaces. C'est le cas avec le dispositif FR Alert, qui permet de disposer de ces alertes sur nos téléphones mobiles. C'est des dispositifs qui existent depuis 2022. On peut encore progresser avec le DAB+, qui est la norme de diffusion audio, qui supplantera un jour, je l'espère, la FM.
On rappelle donc que la tempête Ami a fait 2 victimes en France aujourd'hui, l'une en Seine-Maritime, l'autre dans l'Aisne. C'est là que l'on se rend. On le rappelle, le département était placé en vigilance orange aujourd'hui. La chute d'une grande branche d'arbre sur un véhicule a tué un conducteur âgé de 25 ans. Marion Russel, vous êtes sur place. Vous êtes à Gouy, là où a lieu l'accident. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, c'est dans l'après-midi que suite à ces fortes rafales de vent, une branche d'un arbre est tombée sur cette route départementale à hauteur de la commune de Gouy. On est juste à côté de Saint-Quentin dans l'Aisne et une camionnette circulait sur cet axe en direction de Saint-Quentin et la branche est donc tombée sur le véhicule. Les photos de l'accident sont assez impressionnantes et le conducteur âgé de 25 ans, vous l'avez dit, a donc été tué sur le coup. Sa passagère âgée de 22 ans a été gravement blessée, transférée au CHU d'Amiens pour être prise en charge. Alors ici, le vent est retombé, mais il y a encore sur le bord de la route quelques restes de branchages. Le gros a été enlevé, mais on le voit, le vent a emporté partout, un peu partout le long de cette départementale, des branchages et qui ont donc causé cet accident dramatique. L'alerte est levée désormais, mais à 19h, c'était encore 107 sapeurs-pompiers qui avaient été déployés sur le département, notamment pour des interventions. Une cinquantaine d'interventions, dont 5 accidents corporels. Alerte levée, certes, mais la vigilance reste de mise parce qu'il y a aussi des coupures d'électricité qui devraient être certes rétablies dans le courant de la nuit.